Thème que vous avez pu voir concerne les rapports entre différentes approches que sont la méditation, l'hypnose, l'approche plus globale avec la cohérence cardiaque et la kinésiologie, et en présence de praticiens, en présence aussi de représentants des neurosciences. Voilà, alors comme se déroulent nos soirées en général, chacun va se présenter. Ensuite, vous posez des questions, jamais sans le micro qui va passer dans la salle. Comme tout est enregistré, on ne répond qu'aux personnes qui posent des questions à qui on passe le micro. C'est pareil pour nous. Voilà, alors une première partie. Ensuite, on s'arrête vers 9h15 à la pause. Vous pourrez vous désaltérer, discuter ou prendre l'air. Je pense que vous en aurez besoin vu la chaleur animale qui commence à se dégager ici. Ensuite, on reprend impérativement au bout d'un quart de 20 minutes pour que tout se termine à 22h30, quoi qu'il arrive. Donc, posez vos questions dans les premiers parce qu'après, non, ça ne marchera plus. Voilà.
Rappeler, mon micro marche, oui. Bon, je me permets de rappeler quand même que, en principe, on demande aux gens de ne pas poser des questions personnelles, hein, par rapport aux intervenants qui sont des soignants. Voilà. C'est ce qu'on dit chaque fois. Hein. Je le dis encore aujourd'hui.
On attend que la dernière intervenante s'est pu monter sur son tabouret. Merci, bonsoir. Vous avez un micro, alors vous prenez le micro chacune et voilà. On va commencer par toi. Alors.
Bonsoir. Je suis Véronique Ducretet. Je suis là, je pense, à titre de deux expertises. D'une part, je suis en tant que professionnelle psychologue, psychothérapeute, spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Et dans ce rapprochement de la psychologie et de la méditation, puisque je vais intervenir au sujet de la méditation, je suis également. Allô? C'est bon? Voilà. Donc, voilà. Donc, je disais que je suis psychologue, psychothérapeute. Je suis également formée au programme MBCT, donc ce lien entre la pleine conscience, si vous voulez, la méditation de la pleine conscience dont on entend actuellement beaucoup parler, donc en tant qu'instructeur. Ça, c'est le parcours professionnel, le parcours un petit peu lié entre la psychologie et la méditation. À titre personnel, donc, j'ai une pratique de la méditation de environ entre 25 et 30 ans, qui est rattachée à une pratique, par contre, tout à fait traditionnelle. J'ai commencé mon parcours par faire un collège d'études des différentes philosophies et perspectives des méditations, en particulier bouddhistes, dans un cursus de 4 années. Ensuite, je me suis assise sur un coussin. À ce moment-là, j'ai fait de très nombreuses retraites de par le monde avec des grands maîtres spirituels et des enseignements privés avec certains d'entre eux. J'ai eu la chance de pratiquer régulièrement avec eux pendant une quinzaine d'années. Je continue, mais maintenant, malheureusement, je passe plus de temps dans mon cabinet que en retraite. Ça, c'est une chose. J'ai eu la chance aussi de participer au premier programme de retraite parallèle. Donc, dans la tradition bouddhiste, il y a une retraite que l'on appelle la retraite fermée de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et c'était la première retraite dite laïque, c'est-à-dire où nous devions le faire en étant dans la vie de tous les jours, ce qui nous demandait en moyenne à l'époque environ 4 à 5 heures de pratique quotidienne, sans compter les réunions tous les 2 mois. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Voilà.
Bonjour à tous, Françoise Blondel. Donc, j'interviens aujourd'hui en tant que sophrologue devant vous. Donc, je répondrai à toutes vos questions sur la sophrologie, bien sûr. Et j'ai une formation d'infirmière. Et donc, je pratique essentiellement en entreprise, puisque aujourd'hui, je travaille dans une entreprise. Et donc, c'est là où je pratique le plus souvent actuellement. Voilà. Merci.
Bonsoir, je m'appelle Jean-Jacques Demarteau. Je vais intervenir là en tant que kinésiologue, ou tout au moins pour vous parler de la kinésiologie. Je suis biologiste de formation, ostéopathe et homéopathe depuis presque une quinzaine d'années. Mais donc je suis assez fasciné par ce travail de communication entre l'interface cerveau-muscle dans le cadre de l'ostéopathie pour partie, et puis pour une autre partie, la gestion du stress dans sa grande définition. Voilà.
Bonsoir, Igal Attal, je suis médecin généraliste en libéral à Chambéry et je suis formé à l'hypnose, notamment en hypnoanalgésie, à l'Institut français d'hypnose. Voilà.
Bonsoir à tous, Laurent Vercueil, donc moi je suis neurologue au CHU à Grenoble. Je suis formé à rien du tout. Je pense qu'on m'a demandé de venir surtout pour parler un petit peu du cerveau, parce que dans le titre, vous avez vu qu'il y avait le mot cerveau. Donc si vous avez des questions qui concernent le cerveau, je peux essayer d'y répondre. Je me suis intéressé quand même aux techniques dont on va parler, hein, notamment à travers un petit peu le biais de la mythologie qui est autour, c'est-à-dire tout ce qui est un peu raconté autour de ces techniques et qu'est-ce que c'est en fait. Hein, c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, j'avais fait un article dans une revue qui s'appelle « Science et pseudosciences » et qui est en librairie, hein, en kiosque. Autour de justement l'hypnose, et le titre c'était « De quoi l'hypnose est-elle le nom ?» C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui est derrière ? Qu'est-ce que ça veut dire hypnose ? Voilà, c'est un peu ça qui m'avait intéressé, donc plus un peu à titre épistémologique, hein, qu'est-ce que c'est au point de vue activité ? Et puis derrière, les questions sur le cerveau, je peux essayer d'y répondre bien sûr.
Bonsoir à tous, je suis Sonia Pellissier. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc en filière de psychologie et je suis physiologiste de formation et je travaille sur les relations cerveau-tube digestif et notamment le stress, l'impact du stress sur ces relations entre le cerveau et le tube digestif. Donc du coup, je m'intéresse aussi aux maladies chroniques du tube digestif et à toute la dimension de stress au sens large du terme qui touche à la maladie chronique. Et de ce fait-là, travaillant chez l'homme, je me suis intéressée aux techniques qui pouvaient réduire l'état de stress chez les patients. Et sachant que les patients étaient très demandeurs, ou sont toujours très demandeurs de prise en charge non médicamenteuse ou en tout cas complémentaire de leur traitement. Et petit à petit, je me suis intéressée aux techniques de gestion ou de diminution des états de stress tels que la méditation de pleine conscience, l'hypnose, et la cohérence cardiaque auxquelles je me suis formée depuis 2004. L'hypnose, je me suis formée également, non pas pour pratiquer, mais pour comprendre ce qui est induit dans cet état hypnotique afin de pouvoir mieux appréhender ces techniques dans le cadre de mon activité de recherche. Et actuellement, je travaille sur deux grands protocoles de recherche. L'un sur une technique de stimulation nerveuse qui permet de rééquilibrer les relations cerveau-tube digestif. Et l'autre protocole est un protocole d'hypnose destiné à réduire l'état de stress chez des patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Voilà.
Bien, alors vous pouvez poser des questions. Je me présente, là je suis modérateur. Il se trouve que je suis psychiatre à la retraite et que l'idée de ça m'est venue aussi parce que on peut supposer qu'en 40 ans, les choses ont bien changé dans les questions posées par les patients. Bon, il se trouve que j'ai fait une formation à la méditation que je n'ai pas utilisée, mais pour voir de l'intérieur comment ça se passait. Et que il semblait intéressant, effectivement, de voir les... Bon, c'est un sujet qui est très... très médiatisé, avec beaucoup dans toutes les revues, on parle beaucoup de choses. Dans les questions, c'était intéressant que les praticiens puissent vous répondre sur ce qu'ils font, puis que ça ouvre, comme le disait Laurent Vercueil aussi, ce qu'il en est, bien qu'il soit formé à pas grand-chose. des liens que vous avez sans doute regardés. On a fait travailler les méditants, Mathieu Ricard, assez célèbre, enregistrer les modifications des tracés cérébraux, des ondes cérébrales, de l'imagerie. Donc toutes ces questions-là sont... Monsieur, pose une première question.
Merci, bonsoir. Il me vient un mot. La question va être très ouverte. Elle tient en un mot. Vos pratiques, vos disciplines et l'effet placebo.
Sans répondre de nos disciplines, mais l'effet placebo existe pour tout, puisque l'effet placebo de l'antibiotique, c'est 30%.
L'effet placebo est inhérent à toute prise en charge, qu'elle soit thérapeutique, pharmacologique ou pas. Elle fait partie de l'alliance thérapeutique qui se met en place et du contexte dans lequel s'effectue cette thérapie. Et l'effet placebo, pendant la connotation qu'on lui donne aujourd'hui, vient beaucoup du fait des essais pharmacologiques qui conduisent, quand on teste des médicaments versus placebo, de réduire cet effet placebo parce que c'est un effet qui vient parasiter l'effet pharmacologique que l'on veut démontrer comme étant supérieur à rien. Mais en réalité, l'effet placebo, c'est un effet thérapeutique en soi, puisqu'il va venir apporter un effet adjuvant à l'effet pharmacologique. Et toute prise en charge est entachée de cette dimension d'effet non spécifique qu'on désigne comme étant l'effet placebo. Et de mon point de vue, dans une bonne prise en charge thérapeutique, qu'elle soit non médicamenteuse ou médicamenteuse, le thérapeute a tout intérêt à amplifier cet effet placebo pour ne serait-ce que rendre un peu plus répondant le patient ou la personne qui s'engage dans cette thérapie, ne serait-ce que pour réduire son état de stress, par exemple, son anxiété, l'apaiser pour peut-être mieux supporter ou mieux répondre à l'effet. Et cet effet placebo, il y a beaucoup d'études scientifiques qui se sont intéressées à cet effet placebo et qui montrent que quand on induit un effet placebo ou quand on a une personne placebo-répondeur, il y a une décharge d'encéphaline, donc ces opiacés endogènes qui sont libérés par le cerveau et qui viennent diminuer la douleur, diminuer l'anxiété. Et donc cet effet placebo n'est pas un effet magique ou un effet qui ne correspond à rien. C'est un effet physiologique en soi.
Oui, je pense qu'on est vraiment au cœur de la soirée. Hein. C'est-à-dire que placebo n'est pas un gros mot. C'est pris un peu comme un gros mot. Hein. Alors que le placebo, c'est vraiment le pouvoir qu'a l'esprit pour changer le corps. Or, c'est de ça qu'on parle. C'est vraiment de ça. Hein. Et si vous voulez, toutes les techniques dont on parle, c'est que du placebo, mais c'est maximiser l'effet placebo. Si je vous dis, mais là, vous avez l'air bien pâle, bah, vous allez changer de couleur. Si je le dis avec une blouse blanche, vous allez être encore plus pâle. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vais faire des changements dans votre corps simplement en vous parlant. Et toutes ces techniques dont on parle, c'est que ça. C'est pour ça que le titre, c'est contrôle du cerveau, contrôler son cerveau. C'est que ça. C'est-à-dire que notre cerveau a le pouvoir de changer notre corps. Et quand je dis ça, je dis rien d'extraordinaire. Je dis une banalité. Je dis une banalité, on sait très bien lorsqu'on croise quelqu'un dans la rue, si la personne est plutôt déprimée, si elle est plutôt joyeuse, on sait très bien que notre cerveau a une influence majeure sur notre état physique, parce que les deux sont étroitement connectés, bien sûr. Donc oui, c'est que du placebo. Mais c'est pour ça que c'est merveilleux, parce qu'on va pouvoir, sans drogue, sans médicaments, changer un état physique.
C'est le principe même de l'hypnose qui n'est basé que sur des suggestions et de la métaphore. Donc mais le patient qui vient, de toute façon, quelle que soit la méthode, que ce soit de la méditation, de la sophrologie ou de l'hypnose, le patient qui vient consulter est d'accord pour, entre guillemets, jouer le jeu. Et c'est à partir de là que, finalement, en tant que soignant, on va vous permettre d'exploiter vos capacités, on va vous aider à, mais c'est vous qui allez faire le travail.
Je voulais savoir si dans les effets placebo, mais en pharmacologie, on a déterminé un profil type de patient pour qui le placebo fonctionne toujours. Parce que dans mon idée, ce sont ces patients qui vont venir vous voir et à qui vous saurez encore plus améliorer le placebo.
Je peux peut-être apporter, je ne sais pas si j'apporte une réponse, mais en tout cas, il y a beaucoup d'études, de chercheurs qui se sont intéressés à ce profil placebo-répondeur, placebo-résistant. Et qui se sont intéressés, du coup, à tout un tas de facteurs qui pouvaient relever de. Qui pourraient expliquer cette placebo-réponse ou pas. La personnalité, par exemple, a été étudiée, le sexe, le niveau d'éducation. Et rien de tout ça, en fait, ne peut expliquer la placebo-réponse ou la placebo-résistance, si ce n'est le niveau d'adhésion, de croyance dans la technique à laquelle on va s'adonner, ou dans le niveau de confiance qu'on va accorder au médecin ou au thérapeute que l'on va qu'on a choisi. Et donc ça, c'est ce qui est ce niveau d'adhésion, de croyance et d'espoir et d'attente que l'on projette dans la technique est la clé, je dirais, le facteur qui explique le mieux la placebo-réponse ou la placebo-résistance.
Et puis, alors je parle sous le contrôle de mes deux voisins. Pour l'hypnose, on sait qu'il y a aussi des différents degrés de suggestibilité. Vous voyez qu'on est vraiment sur le même sujet, hein, avec en gros des gens qui sont hyper suggestibles, alors 10%, 10-15%, des gens qui sont dans la moyenne, et puis des gens qui sont au contraire très résistants aux suggestions. Et les gens qui sont hyper suggestibles, les gens à qui on dit la main droite est paralysée, elle ne peut plus bouger, tout de suite, pof, elle est paralysée, elle ne peut plus bouger. Lorsque les gens vont regarder un petit peu quels sont les traits qui sont associés, alors tu me corriges, hein, Sonia, il me semble que c'est des gens qui, par exemple, ont un goût pour la littérature fantastique, ont des traits quand même un petit peu de personnalité ou d'attrait culturel qui vont vers un peu le fantastique, le merveilleux, les influences, etc.
Bonsoir. Toutes vos disciplines traitent du cerveau, bien sûr. Je voudrais savoir si vous êtes tous d'accord, tous là, sur une définition indiscutable de au moins deux choses, l'esprit et la conscience. Est-ce que toutes vos disciplines là parlent de la même chose ?
On n'a pas discuté avant pour s'entendre sur des concepts, hein, de fait. Hein, donc, je ne sais pas du tout répondre à votre question. Hein. Moi, je suis nécessairement scientifique et matérialiste. Donc, pour moi, s'il y a un esprit, c'est ce qui est en fait lié à mon état de conscience, c'est-à-dire un état qui est présentement l'état de mon cerveau. Mon cerveau, là, actuellement, comme il est, il a une propriété qui est d'être conscient. Voilà. Et basta. Mais ça, c'est parce que je ne suis pas du tout dualiste. Hein, je ne pense pas qu'il y ait un esprit. Alors, le titre de la soirée, il introduit un petit peu ce dualisme, parce qu'il dit « contrôlez votre cerveau hein. ». Mais alors, c'est qui va contrôler votre cerveau hein? Alors, il y a un prix Nobel, hein, John Eccles, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Comment la conscience contrôle votre cerveau ». John Eccles, il était catholique, fervent, il était assez papiste, hein, c'est-à-dire qu'il a fait des conférences avec le pape Vatican sur comment la conscience contrôle le cerveau. Donc, il y a la conscience, et elle vient, et elle... prend le pouvoir du cerveau et puis elle s'en occupe. Et puis lorsqu'on meurt, bah, hop, elle peut aller voilà, elle va ailleurs, hein, dans l'au-delà. Hein, mais donc ça, c'est le dualisme. Hein, il y a une coupure. Et effectivement, l'esprit contrôle le cerveau. Moi, je suis moniste, matérialiste. Voilà. J'ai une position, mais peut-être qu'elle n'est pas du tout partagée. Hein, je ne sais pas du tout.
Moi, je pense que tout est une question de... Ça dépend d'où on se place. Moi, je ne suis pas d'accord, effectivement, tout à fait avec cette vision-là. Effectivement, j'ai une formation à la fois scientifique, mais à la fois hors scientifique. Pourquoi ? Parce que c'est une question de modèle. La réalité, pour moi, elle n'existe pas. Elle existe pour personne. La réalité, en fait, on la voit à travers un modèle. Un modèle, c'est quoi ? C'est une représentation conceptuelle de la réalité vers un but. Le modèle scientifique... c'est une représentation de la réalité dont le but est d'expliquer la matière. D'accord ? Il y arrive très bien. Il utilise des outils, il utilise une méthodologie, il utilise des techniques pour arriver à son but. Voilà, c'est un modèle. Le modèle des sciences de l'esprit et des religions, alors je connais peu les religions puisque le bouddhisme n'est pas une religion, mais c'est justement une science de l'esprit. Et pourquoi une science de l'esprit ? Parce qu'elle va prendre exactement la même méthodologie que la science, à savoir la validation des axiomes par l'expérience. Mais en revanche, le but n'est pas le même. Le but, ce n'est pas d'explorer la matière, c'est d'explorer la conscience. Et en cela, nous, on n'est pas d'accord. La conscience va au-delà de la conscience du cerveau. Mais si on attend par les moyens scientifiques de le prouver, c'est juste impossible. Mathématiquement, j'ose dire, c'est juste aberrant. La seule manière de le prouver en méditation, c'est par l'expérience. C'est-à-dire que, alors, pour reprendre une phrase bouddhiste qui est peu prosélytisme et surtout pas marketing, on dit toujours « ne croyez pas ce que je vous dis, expérimentez-le vous-même ». C'est la réalité et la validation par l'expérience. Mais on est dans des modèles différents qui sont complémentaires, qui sont pas, qui s'opposent pas et qui ont des buts différents. C'est ce que je voulais préciser.
Je vais faire une petite précision au niveau de la sophrologie. On parle d'hypnose. En sophrologie, on parle d'auto-hypnose. Donc, moi, mon but, un petit peu, c'est de donner un outil aux gens pour faire de l'auto-hypnose. Alors, la sophrologie, on va de la relaxation de la visualisation, je pense aux sportifs de haut niveau qui utilisent la sophrologie également, jusqu'à la méditation. Il y a vraiment 12 degrés dans lesquels on peut se retrouver. Mais on parle aussi d'auto-hypnose. Alors, est-ce que mon cerveau a le contrôle, effectivement, de ma conscience ? Peut-être.
Je suis un peu au milieu, et ça tombe bien, parce que j'ai plutôt le côté hyper rationnel des origines scientifiques, et puis des pratiques de zazen pendant quelques années, etc., et donc une approche de la conscience. Pour ce qui concerne juste la kinésiologie, puisque je suis censé parler de cela maintenant, moi, je m'occupe du système réflexe et de comment il va réagir à certains stress. Donc, plus je vais éviter de mettre le cerveau, notre grand cerveau, notre grand cortex qui réfléchit en action, mieux c'est. Ce qui ne veut pas dire que je ne communique pas avec le patient, mais j'essaie de communiquer avec lui par l'intermédiaire de son système réflexe, dont par définition, on sait qu'il a plutôt peu d'action dessus. Donc, à partir de là... c'est un peu chanter ce cerveau qui réfléchit ou cet aspect conscient de certaines choses. Et ça ne se fait pas du tout à l'abri de la conscience. Ça se fait bien, je dirais l'animal presque, mais l'humain est bien participant. Par contre, il n'a pas de contrôle sur son système réflexe. Et jusqu'alors, on n'a pas démonstration qu'on peut en avoir un. Donc ça, c'est une partie. Et il y a la deuxième partie en moi qui est là et un vieux souvenir d'un ancien de mes profs qui disait « Si le siège de la conscience était dans le cerveau, depuis les temps qu'on le cherche à cet endroit-là, on l'aurait trouvé. » Je ne sais pas si c'est juste ou si ce n'est pas juste, ce qui ne définit pas non plus ou ne prédit pas non plus que c'est à l'extérieur de notre corps. J'en ai absolument pas, j'ai aucune compétence pour l'envisager. Par contre, je rejoins vraiment madame là sur l'axe par lequel on va regarder quelque chose. Soit on est orienté dans le but, soit effectivement on est... orienté plutôt dans le ressenti, et ça finalement ce sont que les cinq sens qui nous renseignent là-dessus et qui vont nous donner un état conscient de ce que reçoivent nos capteurs dans nos cinq sens. Donc en cet état-là, conscient, pleinement conscient, et puis quelque chose qu'on va envisager de façon beaucoup plus, sinon éthérée, mais tout au moins spirituelle, en utilisant les forces de l'esprit, on va dire, ou de la pensée, ou de l'imagination, etc. C'est autre chose. Donc la dichotomie, pour moi, elle existe, mais elle ne prétend pas effectivement qu'il y a deux individus dans le même, un qui contrôle l'autre et l'autre qui contrôle ou qui subit l'un.
Fonctionne ? Si ? Bien. Il n'y a pas de guérisseur parmi vous. Bon. Alors, pour rejoindre la question de monsieur qui est là-bas, on classe dans effet placebo ou autre chose ? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça.
Sur le même principe que l'hypnose, on est dans la suggestion. Pour revenir à ce qui était dit avant, le fait quand il y a une séance d'hypnose, vous entendez les choses de manière consciente et inconsciente. De manière consciente, c'est ce que le thérapeute va dire. D'accord, si on vous fait voler sur un tapis volant, vous êtes voilà, ça peut paraître complètement aberrant, surtout en tant qu'adulte. Un enfant est déjà parti. Après, c'est les autres suggestions qui vont agir sur l'inconscient. Le principe de l'hypnose, mais c'est la même chose pour les guérisseurs, les brûleurs de feu, c'est l'activation des zones du cerveau. Alors, je parle sous contrôle du neurologue, mais quand vous vivez une situation réelle, ce sont les zones occipitales qui fonctionnent de manière bilatérale. Lorsque vous êtes en mode mémoire-souvenir, vous pensez à quelque chose, ça fonctionne de manière unilatérale. Lorsque vous êtes en état de lâcher prise, d'accord, donc il y a ce qu'on appelle l'induction hypnotique, c'est-à-dire qu'on vous fait lâcher prise, ça diminue l'activité temporale et pariétale du cerveau, donc ça modifie la notion espace-temps, d'où le fait qu'on puisse aussi faire des séances d'hypnose les yeux ouverts, puisque de toute façon, le patient peut avoir les yeux ouverts, il est déjà ailleurs. Lorsqu'on suggère les choses, elles sont vécues de manière réelle, et donc du coup, l'activation occipitale est bilatérale. Et donc, c'est sur un plan physiologique, ça s'explique comme ça. Et c'est ce qui explique que les suggestions sont vécues réellement par le patient. Le patient que vous souhaitez faire arrêter de fumer, si vous le faites fumer en hypnose en lui expliquant que ça sent absolument mauvais et c'est absolument infect dans la bouche, le premier truc qu'il vous dira après la séance, c'est que c'était infect. Mais parce qu'il l'a vécu de manière réelle sans fumer.
Je voulais vous demander, est-ce que l'hypnose permet de modifier la plasticité par son action, la plasticité du cerveau, et ainsi d'agir par exemple, sur des séquelles qui auraient pu être générées par des accidents ou autres au niveau du cerveau.
Alors, ça a été montré que l'hypnose jouait à améliorer la plasticité neuronale. Après, il n'y a pas de réparation de zone en tant que telle. Après, c'est le... encore une fois, c'est finalement... On reprogramme et on trompe son inconscient. D'accord, c'est comme ça qu'on traite le principe du traitement, par exemple, des douleurs des membres fantômes se font avec l'aide de ce qu'on appelle les mirror box. C'est-à-dire que si vous êtes amputé de la main, vous mettez la main gauche dans une boîte avec un miroir. Je suis un peu coincé, mais vous mettez la main droite en face et vous voyez votre main gauche. D'accord. Et donc, via les suggestions, vous expliquez qu'en fait, votre main est là et elle bouge. Si vous la fermez, si vous fermez la droite, vous fermez la gauche. Et c'est comme ça qu'on traite les douleurs des membres fantômes, via les suggestions et entre autres via ce type de moyens. Donc finalement, on trompe un peu son conscient.
Oui, la plasticité cérébrale, c'est un mécanisme qui est permanent. C'est-à-dire que probablement à la fin de la soirée, vous aurez un cerveau différent de celui que vous aviez en arrivant. Hein, c'est-à-dire que le vécu de l'expérience fait que bah, vous connectez des circuits qui n'étaient pas là auparavant. Hein. Et ça a un pouvoir majeur sur, alors pour parler des apprentissages, de la réparation, ce pouvoir-là est très important, il était bien étudié. Juste un exemple, pour pas être trop long, la dextérité d'un geste. Hein, prendre un papier froissé et l'envoyer dans la corbeille. Donc, si vous vous entraînez beaucoup, vous arriverez de mieux en mieux, c'est logique. Hein. Et ben, les chercheurs ont montré qu'ils demandaient à des gens de ceux qui pouvaient le faire. Ils avaient des volontaires qui étaient assez performants pour faire des rêves lucides. C'est des rêves où on dort et on arrive à orienter un petit peu le rêve vers une activité. Et donc, ils demandaient aux gens de rêver. Et lorsqu'ils rêvaient, de rêver qu'ils faisaient ce geste. Et ensuite, ils comparaient les gens qui dormaient, qui n'arrivaient pas à faire ce geste, les gens qui dormaient et qui, dans leur rêve, faisaient ce geste, et les gens qui s'entraînaient. Et ben, les gens qui dormaient, qui rêvaient qu'ils faisaient ce geste, avaient un niveau de performance qui n'était pas loin de ceux qui s'entraînaient réellement à faire le geste. C'est pour vous dire que le circuit, hein, qui est un circuit alors vraiment purement moteur, hein, tout simple, hein, de paf, quel est le paramétrage du geste pour que ça ait la bonne vitesse, le bon angle, à quel moment je lâche la boule, c'est très mécanique. Hein, mais il n'empêche que ça se travaille. Hein, premier coup, on rate la corbeille. Mais on sait très bien qu'on peut arriver en répétant à réussir à la visée. Eh bien, si on rêve qu'on le fait, on va créer les circuits qui vont nous aider à le faire pour de vrai.
C'est le principe de l'entraînement chez le sportif de haut niveau qui va visualiser, alors via les différents moyens, les différentes techniques, et répéter finalement son geste. Et sur certains gestes ou certaines pratiques chronométrées, les performances sont les mêmes au centième de seconde.
Et sous hypnose, on peut justement faire ce type d'entraînement, par exemple dans les situations où une personne, par exemple, aurait peur de se retrouver perdue dans une grande ville et avoir une espèce de crainte qui pourrait devenir une phobie de se retrouver perdue. Eh bien, sous hypnose, on peut entraîner la personne à visualiser son parcours, le moment où elle va sortir de chez elle, prendre son train, ensuite, le métro, se rendre à tel endroit. Elle visualise le parcours, on la rassure pendant ce parcours et elle prend confiance en elle. Et petit à petit, elle va avoir moins de craintes en situation réelle et elle va acquérir de nouvelles compétences même. Dans cette situation-là.
C'est même, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est même plus que... Enfin, c'est de la visualisation, on le voit tel quel, mais en hypnose, moi, souvent, ce que je fais dans les phobies, c'est que je m'arrange pour que le patient se mette en situation le lendemain ou le surlendemain. Parce que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'activité cérébrale revient au même que si la situation était vécue réellement. Donc, le patient qui a peur du vide et qu'on met au-dessus du vide en hypnose, l'a vécu. Donc, s'il le fait le lendemain, son inconscient l'a vécu réellement dans le fonctionnement cérébral la veille. Donc, il l'a déjà fait, finalement.
Pour évoquer d'autres techniques que l'hypnose, par exemple des techniques de biofeedback, notamment la cohérence cardiaque, donc qui consiste à contrôler de manière volontaire et consciente une fonction neurovégétative qui normalement n'est pas directement sous le contrôle de notre volonté. Par exemple, contrôler notre rythme cardiaque et s'entraîner à faire varier ce rythme cardiaque d'une certaine manière pour qu'il puisse... le rythme cardiaque varie en permanence. Et cette amplitude de variation, c'est ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. Et l'amplitude de cette variabilité elle est un reflet de notre équilibre neurovégétatif. Et en l'occurrence, avec les techniques de cohérence cardiaque, on peut faire visualiser à la personne directement son état neurovégétatif lorsque elle a peur ou elle craint de se retrouver, par exemple, dans une situation qui lui fait peur. Et elle voit dans comment son cœur se met à battre. Et ensuite, on va travailler avec elle et lui faire imaginer la même situation, mais avec une solution de confort ou avec un environnement très sécurisant, et montrer à la personne comment son rythme cardiaque va à nouveau varier. Et puis ensuite, on peut dire à la personne, on l'entraîne à contrôler son rythme cardiaque pour faire en sorte que l'amplitude de cette variation augmente encore plus. Et ensuite, on lui fait revisualiser, revivre cette situation contraignante. Alors que son organisme est en état de calme, de grand calme, avec cette grande variabilité du rythme cardiaque, il vit en imagination la situation contraignante. Et de ce fait, il va appréhender cette situation de manière beaucoup plus apaisée. Et ensuite, on fait ça en cabinet, en laboratoire, et après, on passe à la vie réelle. Et on fait faire en vie réelle cet entraînement à la personne. Cet entraînement, à force de le faire, il devient automatique. On travaille la plasticité cérébrale, nerveuse. Il devient automatique. Et donc la personne apprend à chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation où elle n'est pas à l'aise à contrôler son rythme cardiaque comme elle l'a appris. Et ça apaise tout de suite l'organisme. Et du coup, ça lui permet de retrouver un calme, on va dire, de son esprit pour pouvoir trouver, déjà avoir moins peur ou trouver des solutions nouvelles qui peuvent l'aider. Voilà. Donc ça, c'est une façon aussi de travailler sur, c'est de la suggestion, mais contrôlée avec un contrôle physiologique qui est visible par la personne et sur lequel la personne peut jouer. Souvent, ce que les gens craignent, je vois en hypnose, parfois ce qui leur fait un peu peur la première fois quand ils viennent pour une séance d'hypnose, même s'ils sont a priori très positifs, puisqu'ils vont donc faire la démarche de tester cette technique, ils ont un petit peu peur de perdre le contrôle. Donc il y a tout un moment où on va travailler, on va discuter avec la personne pour lui expliquer que non, elle ne va pas perdre le contrôle. Mais c'est une crainte que souvent certaines personnes peuvent avoir. Et quand cette crainte est un peu importante, parfois il est intéressant d'aborder la question avec la personne avec une autre technique où la personne va avoir le contrôle. Et justement, ces techniques de cohérence cardiaque ou de biofeedback, ce sont des techniques où on a le sentiment de contrôler, c'est même plus qu'un sentiment, on contrôle une réaction physiologique. Et donc, on peut comme ça aboutir finalement presque au même résultat qu'avec l'hypnose. Et parfois, quand ces résistances s'abaissent, que la personne est rassurée, qu'elle voit que ça marche, on peut revenir parfois à l'hypnose en lui expliquant que en hypnose, c'est une autre façon d'aborder les choses, mais qu'elle ne perdra pas le contrôle comme dans l'autre situation, avec l'autre technique.
Il n'y a jamais de perte. Enfin, le ressenti, la crainte du patient, c'est la perte de contrôle en hypnose. C'est uniquement du lâcher prise. Donc, le patient qui suit, qui continue sa séance d'hypnose et qui lâche prise, c'est parce qu'il est bien et qu'il est d'accord pour le faire. La personne qui va au spectacle de Mesmer et qui se retrouve à faire la poule sur la scène, c'est parce qu'il était d'accord pour faire la poule sur la scène. Alors après, il est plus ou moins hypnotisable et avec une plus ou moins grande suggestibilité, mais il est d'accord pour le faire. Si vous consultez un hypnothérapeute ou peu importe nos domaines d'exercice et que vous venez pour arrêter de fumer et qu'on vous fait faire la poule dans le cabinet, forcément, il y a un truc qui ne va pas. Donc, vous allez vous lever, vous dire, ça va partir. Mais il y a, en aucun cas, vous êtes coincé et sous contrôle.
C'est un mythe qu'il faut vraiment faire tomber. On ne fait pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne voudrait pas sous hypnose. Hein. C'est les bandes dessinées hein, qui font ça. Hein. C'est un spectacle. Mais juste, il y a une petite question, mais juste parce que j'ai une anecdote, parce qu'on parlait des sportifs. En 83, la nuit qui précéda le match contre Villander, que Yannick Noah a gagné, je parle de tennis, il a rêvé toute la nuit qu'il faisait ce match, la nuit qui précédait, contre Villander. Et c'était un match de 8 heures. Exténuant, il est épuisé et à la fin il perd. Et le matin il se réveille, la première chose qu'il dit à son père c'est est-ce qu'on est lundi? Et son père dit non, non, on est dimanche, t'as ton match là qui va arriver. Il était soulagé, il a gagné.
Tout à l'heure vous avez cité une personne qui prend un bout de papier, qui la jette dans une corbeille. J'ai lu quelque part que, en fait, la décision de jeter ce papier, elle est prise dans le cerveau avant que la personne qui le jette en ait la conscience. Alors, dans ce cas, est-ce que vous confirmez que c'est valable pour n'importe quel acte? Et si c'est vrai, donc, où est la responsabilité l'individu?
Oui, oui, je vois très bien ce dont vous parlez. Donc, je peux peut-être juste revenir un petit peu sur l'expérience qui, je pense, qui a bouleversé les neurosciences, hein, qui remonte à 83. Donc, vous voyez que ce n'est pas récent. Hein. Mais ensuite, si vous voulez, depuis 83, c'était une expérience de neurophysiologie et donc avec de l'électroencéphalogramme qui consiste à enregistrer l'activité électrique du cerveau. Hein. Et en gros, l'expérience, c'était de faire un geste dont vous êtes, vous, l'auteur. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est-à-dire que beaucoup de gestes qu'on fait au quotidien, en fait, on n'en est pas directement l'auteur. Ce sont des gestes qui sont adaptés à l'environnement. Quand je conduis, je ne suis pas en train de réfléchir, attention, il faut que je passe une vitesse. Je passe la vitesse, vous comprenez? Et en fait, ça, c'est un mode économique de fonctionnement. C'est-à-dire que nos actes, nos gestes sont pilotés en fait, par l'environnement dans lequel on se trouve. Et généralement, c'est assez simple. On fait des choses qui sont bien, qu'on a déjà fait 1000 fois et on les fait de manière très mécanique et ça marche très, très bien comme ça. Et de temps en temps, il faut qu'on fasse un geste dont on est le seul auteur. Donc la consigne, c'est vous mettez comme ça et puis quand vous le voulez, vous, et pas quand je vous dis allez-y, vous levez le poignet, vous levez un doigt. Et quand on fait ça, on a un sentiment de simultanéité entre la décision de faire le geste, j'y vais, j'y vais. Et cette simultanéité qu'on ressent, c'est une illusion. Parce qu'en fait, donc c'était mesuré par cette étude, lorsqu'on recueille l'onde, il y a une onde cérébrale qui commence 500 à 1500 millisecondes avant, c'est-à-dire presque une seconde avant, qui est le cerveau qui se prépare à faire le geste, et puis que lorsque tout est prêt, lorsque tout est paramétré, va dire à la conscience, allez, on y va. Voilà. Mais ça, c'est déjà prêt dans le cerveau depuis longtemps. C'est-à-dire que l'activité motrice auto-générée, donc générée par soi, précède la prise de conscience. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Parce qu'en fait, notre conscience, elle n'est pas du tout là, ici, au moment où on la vit. Parce que nos organes des sens ont besoin de transformer l'information visuelle, sonore, etc., en signal nerveux, parce qu'ensuite, il faut décoder le système nerveux, etc., etc. À la fin, la prise de conscience de ce qui se passe est en retard, d'en gros une demi-seconde par rapport à l'événement. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on vit, tout ce que je vous dis, bah, ça fait une demi-seconde que je l'ai dit. On est en retard. Alors, ce qui se passe, c'est que notre conscience, elle vit avec ça depuis la naissance. Donc, notre cerveau, en fait, c'est une machine à anticiper. On anticipe les choses. On est sans arrêt en train d'anticiper. Hein. Et c'est le mode de fonctionnement de base du cerveau d'anticiper. Donc, on se recale avec anticipation une demi-seconde avant. Si je fais un geste et que je vais toucher la table, je sais très bien que je vais avoir un contact avec la table. Je ne vais pas avoir un délai entre le moment où je touche la table et le moment où j'en prends conscience. Vous voyez, on recale. Donc, ça ne change pas grand-chose. Un geste conscient et inconscient. Ben, conscient, ça veut dire que je peux le rapporter. Je peux dire que je fais ce geste. Non conscient, ça veut dire que je ne peux pas le rapporter. D'accord ? En fait, c'est le critère de la conscience. Hein. Lorsqu'on étudie la conscience comme sujet d'étude, on se repose sur la rapportabilité. C'est-à-dire qu'on peut être conscient de ce dont on peut rapporter qu'on est conscient. D'accord ? Si je vous fais un geste comme ça, voilà. Ensuite, je vous demande, est-ce que vous avez vu le chiffre que je vous ai montré ? Donc, je teste votre conscience. Si vous êtes conscient, j'espère que vous êtes conscient ce soir, hein, vous devez pouvoir me dire, on a vu un 4. Maintenant, si je fais le même geste, mais en moins de 50 millisecondes, c'est très rapide, hein, je vais essayer. Hein. Donc, ça veut dire, moins de 50 millisecondes, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le voir. Hein. Attention. Voilà, c'est fait. Quel est le chiffre que je vous ai montré? Quel est le chiffre que je vous ai montré? Non, ce n'était pas un 5. Je vais le faire en ralenti, comme ça. Bon, là, vous voyez, c'est un 3. Donc, vous n'étiez pas conscient. Donc, j'ai testé votre conscience à travers la rapportabilité. Donc, en gros, la différence entre conscient et non conscient, c'est est-ce que je peux dire de quoi je suis conscient ? Voilà.
Juste pour la petite histoire sur les délais, 550 millisecondes, donc c'est à peu près la demi-seconde, hein, ça correspond au temps que vous avez dans les images subliminales. C'est-à-dire le temps que votre cerveau les voit, mais que consciemment vous ne l'ayez pas vu. Donc, vous regardez 550 millisecondes et vous regardez, mettez image subliminale sur Google et vous verrez qu'il y a plein de choses que vous avez vues, ne serait-ce qu'en 81, et vous verrez.
Mais si vous voulez, ça, c'est des expériences. Alors, on a en France Stanislas Dehaene, hein, qui est un grand spécialiste de ça, qui a beaucoup utilisé ça. Et si, par exemple, derrière le 3 que je vous ai montré trop vite pour que vous en ayez conscience, vous avez demandé un calcul, combien font 1 plus 2 ? Eh bien, vous auriez dit 3 plus vite que si je n'avais pas fait ce geste dont vous n'avez pas eu conscience. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas pris conscience d'information, cette information elle est rentrée dans votre rétine, elle est dans votre cerveau, et elle peut être traitée comme une information par votre cerveau. D'accord ? Alors, ça veut dire simplement que notre conscience, c'est un tout petit phénomène. C'est, heureusement qu'on n'est pas conscient de tout ce qui se passe dans notre cerveau, hein, heureusement.
Juste sur une image que vous voyez devant, vous ne captez que 10% de ce qu'il y a devant vous. Le reste, votre inconscient le voit, mais consciemment, vous ne voyez que 10%.
Oui. Bonsoir. Petite question. Donc, j'aimerais savoir comment on peut expliquer que lorsqu'on pense à quelque chose, ça arrive. Je prends un exemple parmi tant d'autres, une petite bêtise. En pensant, ça nous est arrivé, en pensant à arrosoir, on pensait pendant, ça peut paraître bête, mais... Et en faisant peut-être 200 km, on était sur la route, et au beau milieu de la route, en pleine journée, un arrosoir posé, debout. C'est un exemple parmi tant d'autres, et voilà, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Et ça arrive pour pas mal de trucs, en fait. Donc, est-ce que
bon,
je dois me faire enfermer ?
Pour le coup d'arrosoir... Moi, je ne vais pas pouvoir le dire. Je sais pas si...
Non, mais autre qu'un arrosoir.
Mais globalement, il faut savoir qu'on n'a pas de pensée aléatoire. Hein, quand même. C'est-à-dire que tout ce qui nous vient à l'esprit, nous vient à l'esprit pour de bonnes raisons qu'on ne maîtrise pas. Hein, mais, on peut dire que si je vais à la botanique, il y a plus de chances que j'ai dans la tête le mot arrosoir que si je vais chez Renault. Vous comprenez ? C'est pour ça que j'ai commencé en disant que pour l'arrosoir, je ne savais pas et que je demandais à mes collègues s'ils savaient eux pour l'arrosoir. Donc voilà, les pensées qui nous arrivent, elles ne nous arrivent pas forcément par hasard. Si je pense qu'un tel peut mourir, c'est peut-être parce que je sais qu'il est malade ou alors parce que même sans savoir qu'il est malade, la dernière fois que je l'ai vu, je ne me suis pas formulé des trucs, mais j'ai trouvé qu'il avait une drôle de mine, j'ai senti quelque chose. Je ne l'ai pas formulé, je ne me suis pas dit « oh là là, il a l'air malade ». Mais j'ai quand même eu quelque part l'information, ce que je vous disais sur le 3 subliminal, hein, et elle a fait son travail, et tout d'un coup me vient, ah merde, il meurt. Et puis j'apprends qu'il meurt. Vous voyez, j'ai une prémonition. Non, c'est pas une prémonition. C'est un traitement non conscient d'informations dont j'ai pas eu de conscience qu'elles étaient en train d'être traitées. Vous voyez ? Non, l'arrosoir, je suis d'accord, non. L'arrosoir sur la route, là, non, je...
Bonsoir. Pour rebondir sur ce phénomène, justement, moi, il m'arrive assez souvent d'appeler au téléphone une personne, ça sonne occupé, et cette personne est en train de m'appeler. Donc, et il n'y a pas que ça. Donc, je voulais savoir si vous aviez une réponse là-dessus.
Bon, moi, je serais un peu sur la même explication, hein, c'est-à-dire que cette personne-là est sans doute quelqu'un d'assez proche de vous, pas forcément, ou avec qui vous avez une certaine amitié. Cette amitié, elle n'est là pas par hasard, parce que quelque part, vous avez des traits communs ou des repères communs ou des goûts communs ou une vie commune qui fait qu'à un moment donné, dans la journée, ben, vous avez un petit peu les mêmes genres de choses en tête. Et parmi les choses en tête, c'est « tiens, je vais appeler les copines ». Et la personne a dit « tiens, je vais appeler les copines ». Et c'est à ce moment-là que l'écoute... Donc, ce n'est pas forcément une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fait qu'on est entouré de gens, ben, dont la plupart, on les choisit un petit peu. Et on les choisit parce qu'on a des communautés. Et si on a des communautés un petit peu de goût, d'histoire, etc., on peut aussi avoir des communautés de pensée, y compris une pensée comme « tiens, je vais l'appeler ». Vous comprenez, ça peut être ça.
Et puis comme on est des scientifiques et qu'on aime bien que tout soit carré, prouvé, justifié, et voilà, y a encore des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. Vous avez des jumeaux qui vivent chacun au bout de la France, qui ont un limbago le même jour, au même moment, à la même heure, à la même minute. Pas d'explication. Pour l'instant.
Je pense que, effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est scientifique et non pas scientiste, il y a quelque chose qui est fondamental et qu'il faut garder, c'est le doute. On ne sait pas tout, d'accord ? Et c'est bien ce qui nous permet encore et encore de progresser. Si on est scientiste, on pense que notre modèle, c'est tout et qu'on a réponse à tout et qu'on va tout expliquer avec nos méthodes et nos concepts. Et je pense que c'est une erreur. Donc, il y a des choses qu'on n'explique pas et c'est ce qui fait encore toute la richesse, justement, des découvertes et de l'avenir.
Oui, je voulais revenir sur les 550 millisecondes où vous avez parlé par rapport entre la conscience et l'action. Est-ce que vous avez fait du travail ou une approche avec des musiciens professionnels ou en général, quand on est un allegro moyen, mettons à 120 à la noire, on est à la triple croche, la gestion complète de la manière d'enchaîner tout ça?
Oui, mais c'est tout à fait différent, là, hein, puisque chaque note... En fait, si vous voulez, c'est tout un registre, hein, de mouvements qui sont très organisés, qui sont très... On n'est pas du tout... dans la préparation d'un geste qui doit être déclenché au moment où on le décide là. C'est plutôt un enchaînement. Donc, on est dans l'ordre de l'apprentissage de routines hyper expertes. Hein. Donc, les routines, tout le monde voit ce que c'est. Hein. Un exemple simple de routine, c'est la conduite automobile. Hein. On peut conduire et penser à tout à fait autre chose. Hein. On peut même conduire, arriver à un endroit et dire j'ai oublié le... Et ça a un rapport avec les mécanismes de l'hypnose, etc. Donc là, on est un cran au-dessus au niveau d'expertise, bien sûr, hein, mais on est sur quelque chose qui est extrêmement automatisé, extrêmement robuste, et sur lequel la conscience en tant que prise de décision n'a aucun rôle. Hein. Voire même, il ne serait pas bon que la personne, tout d'un coup, prenne conscience de ce qu'il est en train de faire, parce que ça va interférer avec son... c'est pas les gens d'experts aussi de ce type-là, c'est les grands sportifs qui ont des choses très... très, très précise à faire, soit la perche, etc. Leur façon de faire le soit la perche, c'est vraiment de surtout ne plus du tout être dans le contrôle, hein, de laisser aller l'automatisme. Moi, j'aime beaucoup la parabole du mille-pattes et du renard. C'est le mille-pattes qui marche au bord de la falaise, là, hein, et puis le renard qui arrive en disant mais comment tu fais pour pas tomber avec toutes tes pattes là, moi, je m'en mêlerai, je tomberai tout de suite de la falaise. Le mille-pattes lui dit mais non, c'est simple, regarde, je bouge cette patte-là, je bouge celle-là, et puis ah! Et il tombe. Voilà. Donc, on n'est jamais meilleur que lorsqu'on est dans un automatisme. Mais ça, c'est un mécanisme de base du cerveau. Le cerveau, il a intérêt à fonctionner comme ça. C'est hyper économique. C'est hyper économique de pouvoir délivrer des routines très expertes. Quand vous écrivez, exemple de routine experte, vous écrivez, vous n'êtes pas en train de penser « Oh là, je fasse un haut, il faut que je monte, il faut que je fasse bien la boucle. » Non. Vous pensez à ce que vous êtes en train d'écrire, mais vous ne contrôlez pas le geste lui-même. Si tout d'un coup, vous arrêtez sur le geste, vous allez prendre un temps fou, quoi. Hein, donc, et la musique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va faire des transductions de la musique qu'on a en tête dans les mouvements en essayant d'être le moins près possible de la conscience de ce qu'on est en train de faire. Alors, un exemple de ça, c'est... Alors, je vais parler avec ma casquette de neurologue, hein, c'est que les musiciens hyper experts ont une pathologie qui est spécifique du musicien, enfin, qui n'est pas spécifique du musicien, qui est spécifique de l'expert, qui sont les dystonies induites par les instruments. C'est-à-dire que dans ces circuits-là, alors c'est des circuits qu'on localise, hein, dans le cerveau, on sait que c'est des circuits des ganglions de la base, où on implémente en fait toutes les autoroutes des expertises, hein, de ce qu'on fait, comme je vous le disais, sans y penser. On peut vraiment laisser faire, et le mieux on laisse faire, le mieux c'est. Les musiciens hyper experts, les gens qui sont professionnels, qui font 10 heures par jour, peuvent avoir des problèmes dans ces autoroutes-là qui font qu'ils vont faire systématiquement un mauvais geste, qu'on appelle une dystonie. Donc ça peut être dystonie d'embouchure, par exemple, des cornistes, qui, au moment où ils vont approcher, l'embouchure, hein, c'est extrêmement pénalisant, c'est des gens qui abandonnent le métier ou alors deviennent profs parce qu'ils ne peuvent plus jouer leur instrument.
Non, c'est pas gentil pour les profs.
Non, je plaisante pas, hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne peuvent plus jouer l'instrument, ils continuent à vivre de leur métier parce qu'ils enseignent.
Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que on peut très bien être musicien de haut niveau et enseigner en même temps, faire les deux choses à la fois. Mais je reviens quand même, c'est que quand on est en situation de jeu instrumental, même qu'on est en trio par exemple, il est possible dans une pièce très rapide de contrôler effectivement que le voisin à côté est tout à fait en phase et se recaler sur lui immédiatement.
Vous avez un bon signe des routines, c'est la libération de mouvements involontaires. Et les instrumentistes, quand vous les regardez, ils ont plein de... Regardez les pianistes, par exemple, ils font plein de grimaces, etc. Et ça, c'est commun à beaucoup de routines. Regardez les sportifs qui vont se préparer pour leur saut à la perche. Ils ont plein de petits trucs, de petits tics comme ça. C'est de la libération motrice de mouvements qui accompagnent en fait cette activation des ganglions de la base. On est sur des autoroutes, des choses qui sont hyper, hyper connectées. Et dans le cas des dystonies, ça a été étudié. Hein, on sait qu'on a un problème dans la connectique de ces autoroutes qui font qu'à un moment donné, il y a un dérapage.
Bonsoir. On sort un petit peu. Pardon. Je voulais savoir, on parle beaucoup des sportifs de haut niveau, et notamment au niveau de la performance chez ces sportifs, l'automatisation du geste. Est-ce que certaines pratiques non conscientes dont vous parlez, permettent d'optimiser cette performance et d'aller plus loin, et surtout au niveau aussi de la récupération après un effort intense.
C'est vous, parce que je vais désigner.
Sur les performances, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de répéter le geste, le mouvement ou même toute l'action sur une descente à ski, etc. Donc oui, à condition, bien sûr, d'avoir un certain niveau. Le débutant ne sera jamais champion du monde. Donc oui, ça optimise. Après, sur la récupération, c'est de la physiologie. Donc non, on récupère pas plus. On peut utiliser des méthodes de relâchement derrière, que ce soit l'hypnose ou autre, à visée antalgique, pour les douleurs. Mais après, l'organisme reste l'organisme, la physiologie aussi. Et puis, passer un certain point de... passer le point de rupture, ça s'appelle le dopage.
Au niveau des sportifs de haut niveau, il y a l'anecdote de Sébastien Loeb qui a dans son programme d'entraînement des gestes à accomplir en réception de lumière qui s'allume pour augmenter sa réactivité à un signal.
J'avais une autre question par rapport à l'inconscient. Par exemple, les éthiothérapeutes qui travaillent sur le pouls, d'après ce que j'avais compris, ils posent des questions au patient qui va répondre, mais en parallèle, son pouls va se modifier sans qu'il s'en rende compte. Et donc, ça serait comme une conscience corporelle. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y avait une différence entre une conscience corporelle et une conscience de l'esprit ?
Je
peux répondre un petit peu au niveau du système réflexe, parce que ce à quoi vous faites allusion, c'est le réflexe auriculo-cardiaque qui a été mis au point par Nogier il y a un bon nombre d'années. Et effectivement, on se rend compte que le pouls varie en fonction de l'état de stress. Donc moi, je ne suis pas sur ce rayon-là, mais plutôt sur les seuils d'étirement réflexe des muscles qui vont varier aussi en fonction de certains stress, qui soient effectivement vécus dans le corps, dans la physiologie du corps, mais également dans la pensée, les peurs, les émotions, les habitudes, etc. La seule petite chose à laquelle moi je suis terriblement attentif, c'est que c'est quelque chose qui reste opérateur dépendant. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas ce qui se passe chez le patient ne contrôle pas ce qui se passe chez nous, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le cadre de la dualité. Même lorsqu'on regarde un peu les sciences anciennes, on va dire comme la médecine traditionnelle chinoise par exemple, deux acupuncteurs ne trouveront pas le même pouls. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se révèle être opérateur dépendant. Donc, il y a quelque chose, moi, qui me paraît un peu étranger à la situation ou à la conversation qu'on a ce soir. C'est, hormis la relation thérapeutique, c'est la relation de communication qu'on a aussi avec l'autre, avec son patient. Ça veut dire que, pour rebondir sur l'effet placebo tout à l'heure, où effectivement, certaines personnes vont être mises sous l'emprise ou sous la confiance de certaines autres personnes, c'est quelque chose qui va rester, effectivement, dans l'acte thérapeutique, prisonniers, on va dire, de cette dualité-là. Donc, effectivement, les éthiopathes qui vont prendre leur hack vont avoir effectivement un résultat donné avec ce patient-là, et un autre praticien n'aura pas forcément le même résultat. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui est vraiment important ? C'est est-ce qu'on compare les résultats, finalement, que chacun va apprécier, ou est-ce que c'est les informations qui seront issues de ces tests ou de ces évaluations, fussent-elles un peu tirées par les cheveux d'un point de vue très scientifique, peut-être ? Qu'est-ce qui va être important ? C'est effectivement la relation thérapeutique qu'il y aura eu, l'état de la communication avec le patient et surtout le résultat clinique si on en attend. Donc, moi, je n'ai pas d'explication sur où ça se trouve ou qu'est-ce qui répond alors. Moi, je ne pose pas de questions. Je mets un fait en évidence et je regarde effectivement si les réflexes sont idéaux ou sont adéquats avec un état de non-stress ou s'ils sont différents. Dès l'instant où ils sont différents, ça me donne une information dans le sens où l'état de stress est différent de l'état de non-stress. Il y a un état d'homéostasie qui est relativement équilibré comme sa définition et un état qui est hors de cet équilibre-là. Dès l'instant où cet équilibre-là n'est pas présent, c'est une information à retenir. Et c'est de là alors que je vais, moi, activer ma réflexion. Mais c'est terriblement duel. C'est vraiment quelque chose qui est prisonnier de la relation duel. Alors ça, évidemment, si on se range du côté scientifique, ce n'est pas approuvable dans le sens où, aux mêmes causes, on devrait avoir les mêmes effets. Et là, effectivement, aux mêmes causes, on n'a pas forcément les mêmes effets parce qu'on a deux humains et pas forcément un robot et un humain.
Alors, moi, j'aurais une question sur la méditation de pleine conscience. Je voudrais savoir ce que ça produit sur le cerveau quand on est en séance de méditation de pleine conscience et pourquoi il est recommandé d'avoir une pratique régulière de méditation de pleine conscience.
Alors, depuis un certain nombre d'années maintenant, je pense une vingtaine d'années, la littérature concernant les résultats des études de la méditation ont littéralement donc explosé. C'est vraiment c'est impressionnant le nombre d'études qui ont été faites et tous les bienfaits qui sont scientifiquement prouvés. Alors, il y en a tellement qu'on ne va pas les aborder ce soir, qui concernent effectivement le côté somatique, qui concernent, par exemple, l'augmentation de l'immunité, qui concernent effectivement plein de choses au niveau somatique. Il y a aussi toutes les modifications au niveau cérébral, bien évidemment la neuroplasticité cérébrale, un impact au niveau de la matière grise du cerveau, au niveau de l'insula, au niveau du système limbique et bien d'autres. En fait, les chercheurs, ce qu'ils ont montré, c'est que la méditation, alors bien entendu, ils n'ont pas fait ça sur vous ni sur moi, ils ont fait ça sur des pratiquants accumulant des années et des années et des années de retraite méditative. Et en fait, ils se sont aperçus en un mot qu'il y avait une véritable modification à la fois fonctionnelle et structurelle du cerveau. Voilà. Alors, la méditation de la pleine conscience. La méditation de la pleine conscience, pour moi, n'est pas la méditation. Il y a plusieurs méditations, d'accord ? Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une démarche méditative. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, il y a une démarche et il y a des méthodes et il y a différentes méditations. la méditation de la pleine conscience est une étape. Elle est très médiatisée aujourd'hui parce que c'est celle qui a fait beaucoup d'encre au niveau des études. Hein. Voilà, ce qui est très connu, c'est le programme en 8 semaines, MBCT, MBSR, qui a une visée thérapeutique. Parce qu'encore une fois, la méditation, en son essence, n'a pas forcément une visée thérapeutique. C'est pour ça que je me sens un petit peu en décalage avec ce qui se passe ici. Il y a un effet thérapeutique qui est une conséquence, mais le but, ce n'est pas thérapeutique. À l'origine, ce n'est pas ça. Alors, après, donc, ces modifications, c'est ça. Pourquoi il faut s'entraîner ? Ben, c'est quoi la méditation ? Parce que tout le monde en parle, tout le monde écrit. Mais quand on pose la question, ben, ça fait plouf. On fait quoi en méditation ? Ouais, mais on fait quoi exactement ? C'est pas un lâcher prise. La lâcher prise, c'est ma collègue. Elle fait de la sophrologie. Si vous voulez lâcher prise, allez voir un sophrologue. Non plus. Impossible de penser à rien. Comment ? En fait, on travaille sur quoi en méditation ? Quelle est la matière ? On travaille sur l'esprit, on travaille sur la conscience. D'accord ? C'est ça, finalement. Et finalement, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais vous prendre une image qui n'est pas de moi, parce que je suis très mauvaise pour les images. On compare souvent la méditation. En fait, on a un esprit, comme il a très bien décrit mon collègue, qui est souvent en pilotage automatique. C'est-à-dire le cerveau, il reçoit par millisecondes des milliards et des milliards d'informations. Donc, il ne faut pas disjoncter. Excusez-moi, moi, je n'ai pas la terminologie bien précise. Mais en tout cas, il faut qu'il catégorise. Il faut qu'il mette dans des boîtes. Il faut qu'il ait des automatismes de fonctionnement. Il faut qu'il catégorise en permanence. Et bien souvent, ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est utile, c'est fonctionnel. Heureusement qu'on fait ça. Tous les exemples qu'on a pris, le cerveau, il est programmé pour faire ça et c'est utile. C'est le mode de catégorisation. Ce qu'il y a, c'est que dans notre fonctionnement, notre esprit, il n'y a pas que ça. D'accord ? On compare souvent la méditation, symboliquement, au notre esprit, comment dire ? Notre esprit est très agité. On a beaucoup de pensées, on a beaucoup d'émotions, et bien souvent, c'est l'origine de beaucoup de nos problèmes, hein, bien souvent. Et donc, en fait, le travail sur l'esprit va déjà venir apaiser cet esprit pour pouvoir lui permettre de s'apaiser, d'être plus clair. On prend souvent l'exemple du ciel avec les nuages. Votre esprit, il peut être comparé au ciel. Il est toujours clair, il est toujours tranquille, mais devant, il y a plein de nuages qui sont les émotions, qui sont les pensées, qui sont tout ce qui peut vous perturber. Et la première étape de la méditation, qui ressemble donc à celle de la pleine conscience, dans un premier temps, on va calmer l'esprit. C'est-à-dire qu'on va calmer cette agitation mentale. Et pour ce faire, on va prendre des points de concentration et d'attention. Donc là, on n'est pas du tout dans un état de conscience modifiée, on est au contraire dans un état d'attention. Voilà, pour pouvoir finalement venir calmer cet esprit. Voilà, ça c'est la première étape. C'est l'étape de la pleine conscience. C'est une première étape. Après, à savoir ce qu'est le ciel, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce que la nature de l'esprit. Ça, c'est une autre étape. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Bien. C'est vrai qu'opposé, je pensais à la faire. On va s'arrêter comme il l'est prévu. Là, on reprendra. Non, il n'y a pas de dernière question. C'est pas de chance. Il faudra revenir après la mi-temps. Pas remarqué qu'il y a quelqu'un qui avait éteint la lumière, genre oh, Léo, vous avez pu laisser passer l'heure. On va pas regarder la vidéo, il faut respecter la consigne. Mais vous pouvez reposer votre question, vous serez le premier au retour, je me souviendrai de vous. Non, mais cette opposition aux méditations, et c'est intéressant de terminer là-dessus peut-être pour y revenir, parce que deux choses opposées. Mais nous sommes tenus pour le respect, on pourra y revenir juste après à la pause.